Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Réginald Allouche, médecin, chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et Philippe Gérard, directeur de la recherche à l'INRAE, spécialiste du microbiote intestinal et du métabolisme. Référence scientifique internationale sur Akkermansia. Programme complet, intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr.
Cette émission vous est présentée par Metagenix, laboratoire expert en micronutrition et recommandé par les professionnels de santé depuis plus de 40 ans. Metagenix, la science source d'équilibre.
Fonctionnellement vôtre, Pierre Maldinet sur Nutri Radio.
Pierre Maldinet sur Nutri Radio, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Comment va le grand
Pierre Maldinet? Très bien, vous savez que quand je suis là, je revis.
Le très demandé Pierre Maldinet, et en fait il travaille comme un fou.
Ça, franchement, c'est du plaisir.
Je suis toujours impressionné.
Je suis très gâté là, vraiment,
par la quantité de travail que vous abattez.
Oui, mais c'est du plaisir Fabrice. Donc,
C'est fou, non mais vraiment tard le soir et tout. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour faire un clin d'œil à tous les médecins et ces professionnels de santé qui travaillent de nombreuses heures sans... Ben voilà, c'est fou. Déjà, des fois, parfois on se plaint. Quand on voit la quantité de travail que vous faites, sans compter les conférences, les week-ends et tout, enfin, on se rend pas compte du travail, mesdames, messieurs. On se rend pas compte du travail, il faut le dire. En tout cas, bravo. Bravo à tous ces professionnels de santé qui n'ont pas la vie facile, hein, qu'ils soient médecins généralistes et subi un rythme de visite infernal, ou des médecins aussi avec une approche plus fonctionnelle, ou des spécialistes qui ont plus de temps, mais avec aussi quelle responsabilité. Moi, je pourrais jamais, franchement, je n'ai pas de regret, par exemple, de ne pas avoir été médecin. J'aurais jamais pu faire des études de médecine et avoir en face de moi des patients. C'est particulier.
Je pense que vous aurez fait un excellent médecin parce que vous avez une empathie. Ça, il faut être empathique pour être médecin. C'est-à-dire, il faut s'intéresser à l'autre.
Alors, vous pensez, parce qu'il y a beaucoup de médecins, l'empathie, ce n'est pas leur qualité première. Hein.
Il veut dire, oui, alors ça, ce sont des bons techniciens. Oui, mais moi, je n'appelle pas ça. Voilà, bon, ça fait partie. Il faut être un bon technicien, mais être très empathique. Et être à l'écoute, parce que bon, ces gens viennent nous voir parce qu'ils ont une problématique.
Bon, alors on va continuer l'émission, merci. On remercie, notre partenaire, Laboratoire Metagenix, spécialisé dans la micronutrition, dans la phytothérapie, dans les compléments alimentaires, les synergies efficaces et basées sur la science. Merci à eux et de leur soutien indéfectible pour nous permettre de vous proposer tous ces contenus. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast si vous ne nous écoutez pas sur le live, hein, si c'est à travers les plateformes de podcast comme Spotify, comme Apple Podcast. Abonnez-vous pour ne rien rater, et puis en plus nous, franchement ça nous sert pour le référencement, donc ça ne peut pas faire de mal, et surtout partagez ces contenus, ne gardez pas ça pour vous, soyez généreux dans le partage. On va continuer l'émission cette semaine. Je vous avais quitté la semaine dernière en disant, tiens, on va parler un peu de l'alimentation, aussi de quelques suppléments qui sont bons pour le cœur, mais aussi donc pour le microbiote surtout. On a vu ce lien microbiote-cœur, le lien intestin-cœur. Mais vous m'avez dit, Pierre, vous m'avez repris de voler. Hop, on a parlé de dysbiose, on a évoqué le LBS, mais on n'a pas parlé du TMAO. Et là, quand vous me dites ça, je dis, mais qu'est-ce que vous racontez?
Qu'est-ce que TMA quoi?
TMAO, dysbiose. Alors, je vous laisse reprendre tout de suite, ça passe vite.
C'est vrai que ça passe vite. On est toujours sur ce tube digestif. On a évoqué ces LBP que l'on mesure. Donc, ça, c'est de la médecine quotidienne. Alors, un petit peu spécialisée, nutritionnelle. Mais c'est directement proportionnel, par exemple, pour les cardiologues, ça va les intéresser, à l'atteinte des lésions coronariennes, plus ou moins sténosantes. Mais enfin, bon, voilà. Il y a une relation directe parce qu'on va déclencher une cascade inflammatoire pathogènes, non maîtrisés, etc., etc. Et puis, il y a d'autres marqueurs qu'on mesure, encore une fois, ça c'est le côté pratique, chers auditeurs, ça se mesure. On va mesurer le TMAO, enfin oui, c'est pas un gros mot, ça veut dire quoi? Triméthylaminoxyde, et ce TMAO exerce une activité endothéliotoxique, est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant des autres. Voilà, donc c'est un des éléments supplémentaires que l'on va doser, mesurer, et s'il est élevé, on va le traiter, on va voir comment on va en dire deux mots, et notamment par des choses simples comme le resvératrol, et le vin rouge. Donc.
Alors, ça vous fait plaisir.
Ben oui, parce que c'est la vie. Et puis c'est le régime crétois, en fait. Voilà. Le vinaigre balsamique, enfin, rien que des bonnes choses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire TMAO, Fabrice? Ça veut dire triméthylamine, le TMA, et qui va s'oxyder dans le foie pour devenir un TMAO. Et ce TMAO, c'est une véritable lame de rasoir qui va abîmer nos circuits artériels. Donc, c'est un vrai facteur de risque déclenché par un microbiote pathologique avec ce qu'on appelle, ça c'est un petit peu technique, des TMA liases. Donc il faut un microbiote un peu pathologique. Et puis, si vous êtes un consommateur de viande rouge, un peu excessive, avec de la carnitine, et ou de choline, qu'on va retrouver dans les œufs, dans le fromage, donc on n'est pas dans de la malbouffe, hein, mais c'est surtout, donc, le point commun, c'est ce microbiote qui va transformer la rencontre de carnitine et de choline avec des TMA liases, donc un microbiote pathologique, il va faire ce TMAO. Donc c'est publié, encore une fois. Voilà. Et le traitement, c'est le régime méditerranéen, chers auditeurs, on en dira un mot après, avec le resveratrol, qu'on trouve évidemment dans le vin rouge, le vin de qualité. Hein, donc,
à consommer avec modération.
À consommer avec
pas plus
d'une
bouteille par jour, surtout. Non, je rigole. Pas plus d'un verre.
Voilà, on dit un verre par jour, c'est bien, peut-être deux chez les hommes. Et puis du vin de qualité, du vin bio, ou en biodynamie, bien évidemment. Donc on évite de rajouter trop de sulfites, de choses comme ça. Bon. Donc, resveratrol, régime méditerranéen. Le vinaigre. Dans le vinaigre, vous avez une molécule qui va bloquer donc ce TMAO. On retrouve également...
Attendez, le vinaigre, ok, mais lequel? Parce que j'ai entendu dire que le...
Vous balsamique.
Oui,
balsamique.
Mais balsamique, paraît que c'est un peu sucré.
C'est un petit peu sucré, mais ce n'est pas le sucre, ce n'est pas le diable, hein, c'est l'excès de sucre qui pose problème. Mmh. Donc il est un petit peu sucré parce que c'est des petites quantités, hein, Fabrice.
Oui,
c'est vrai. D'abord, ça vaut tellement cher, mais même pour parfumer toutes vos petites sauces, etc., bon, c'est des petites quantités. Mais le vinaigre balsamique, qui contient du DMB, enfin qui est un inhibiteur de ce TMAO.
Et le vinaigre de cidre, vous en pensez quoi? Il y a cette grosse mode aussi de...
Du bien. Donc, franchement, alors j'ai pas, moi je suis pas un spécialiste du vinaigre, et vous dire c'est mieux le balsamique que le vinaigre de cidre, mais franchement c'est un bon nutriment, un bon aliment.
Le vinaigre ménager?
C'est un peu moins bien. Là ça décape un tout petit peu. Donc le resveratrol, donc là aussi du vin bio plutôt. Voilà, toujours pareil. Hein, donc chaque ce qu'on vous dit, c'est comme les petits poissons gras. Ben oui, il faut chercher les petits poissons, parce que les gros poissons, c'est gras, mais c'est chargé de polluants, de mercure, etc. Donc, comme toujours dans l'alimentation, et vous l'évoquiez, on a bloqué l'importation de goyave, de mangue, donc c'est très riche en antioxydants. Mais si ces antioxydants sont ramenés avec tout un tas de toxiques, ben ça ne va pas. Donc voilà, c'est donc toujours pareil, de saison, de terroir... Et plutôt avec une alimentation raisonnée, quoi. Mais c'est pas si simple que ça. Actuellement.
C'est ça, c'est ce que j'évoquais la semaine dernière. Vous pouvez réécouter le podcast, hein, puisqu'on parlait de cette très belle émission Expérience Santé, disponible sur Nutri TV, aussi sur YouTube, avec un vrai sujet sur la dernière. Enfin, tous les sujets sont de vrais sujets, mais là, pour le coup, en lien avec ce dont on parle aujourd'hui, on nous dit manger 5 fruits et légumes par jour, et en début d'année. On a appris qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôle sur les légumes et les fruits qui venaient d'outre-Atlantique, notamment, et d'Amérique latine. Et donc, on a interdit les goyaves, les mangues, etc., en disant que c'était, attention, c'était dangereux. Mais le drame de tout ça, quelque part, c'est que, un, on sait qu'il n'y a toujours pas assez de contrôle. Donc là, on l'a interdit. C'est une interdiction française, pas européenne. Ça veut dire qu'ils peuvent quand même arriver en Europe. Et puis surtout, je me dis, mais pendant toutes ces années, ce n'était pas interdit. Et pendant toutes ces années, on s'est gavé de goyave, de mangue, de machin, et qui contenait plein de produits toxiques. Je me demande si je ne vais pas faire un petit procès à l'État, moi.
Oui, et puis même en Europe, Fabrice, il y a certains pays qui balancent énormément de pesticides et de polluants. Hein, donc bon...
Ouais,
j'adore l'Espagne, mais bon, des fois. Bon,
hop, attention, olé. Le bio espagnol, on en revient. Tiens, on en reparle dans un tout petit instant, c'est juste après ceci.
Métagénix agit à la source de votre santé. Avec des formules à base d'ingrédients purs et puissants, testés cliniquement et recommandés par des professionnels de santé, les produits Métagénix sont scientifiquement formulés pour être absorbés par votre corps et commencer à agir en seulement 45 minutes. Rétablissez votre équilibre intérieur pour un bien-être durable. Avec Métagénix, ne vous contentez pas de gérer vos symptômes. Renforcez votre organisme et libérez le potentiel de votre corps. Métagénix, la science source d'équilibre.
fonctionnellement vôtre. Pierre Maldinet sur Nutri Radio.
Et viva España! La, li, la, la. Mais non, parce qu'on parlait du bio espagnol juste avant la pause.
Excellent.
Non, mais attendez. Il a quand même très mauvaise presse, ce bio espagnol. Dès qu'il y a des fruits et légumes qui viennent d'Espagne, on
alors
nous dit
alors non, c'est pas le bio espagnol. Non, non, c'est,
pourquoi
les, c'est les cultures espagnoles.
Pourquoi? Pourquoi?
Quand terrasse. C'est pas bio, ben c'est très chargé en. Parce que c'est des cultures intensives sur des sols appauvris, etc., etc. Dès que c'est bio, bon, c'est quand même beaucoup moins mal. Je ne dis pas que c'est parfait, c'est, mais quand même, c'est contrôlé. Et en Europe, il y a des contrôles. Donc, malheureusement, quand on sort de ce marché, ben justement, et ce qu'on vient de signer, et pour lesquels les agriculteurs manifestent, ben évidemment, c'est juste scandaleux. Quoi. C'est-à-dire qu'on impose à juste titre pour notre santé, parce que tout ça, c'est des millions de morts derrière tout ça, quand même. Hein. C'est pas juste pour nous emmerder. Ben c'est parce que c'est une source majeure de maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, de morts prématurées, etc., etc. Ben oui, alors on impose à nos agriculteurs français, et peut-être européens probablement, mais surtout les Français, parce que la France... Et là, pour le coup, rajoute des normes, mais c'est des normes de santé. Voilà, parce qu'elle estime que, ben, on laisse passer, même en Europe, trop de choses. Bon, voilà. Et là, pour le coup, ben, et on ouvre le marché avec au Mercosur, avec des trucs aux hormones, pollués de tous les côtés, etc. Donc, c'est sûr que c'est vraiment pas bien, quoi. Donc, un, nos agriculteurs, ben, vous les imaginez, sont pas contents, souffrent, vivent à peine de leur métier, ce qui est juste un grand, grand scandale, quoi. Je veux dire, j'espère que les prochains gouvernements vont quand même aider nos agriculteurs qui nous nourrissent, quoi.
Alors, et vous savez pourquoi c'est le bio espagnol, notamment à mauvaise presse par rapport au...
Alors, ça, non, je ne sais pas.
Eh bien, selon...
Selon
les nuages et les astres. Non, non, mais en réalité, il y a une loi européenne du 1er janvier 2022 qui impose un cadre unique et uniformisé au sein de l'Union européenne. Ça veut dire qu'un produit espagnol français ou un produit espagnol italien ou belge ou je vais faire tous les pays de la communauté non mais en fait qui portent le logo donc européen respectent les mêmes exigences
normalement, oui.
Minimales qu'ils soient produits en France ou ailleurs. Par contre, pourquoi c'est pas perçu de la même manière? C'est parce que les contrôles bio sont nationaux. C'est-à-dire que charge à chaque pays
d'accord,
d'aller désigner ces organismes certificateurs, la fréquence et l'intensité des contrôles. Et il paraîtrait que les contrôles sont pas aussi
fréquents et de qualité.
Il paraîtrait, encore une fois, je ne veux pas pointer du doigt, mais peut-être que nous, on voit ça de la France et peut-être que les Espagnols se disent « joder, el bio francés !» Mais c'est pas bien non plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon.
Mais c'est vrai que c'est important parce que vous émettez des règles, des bonnes règles, mais s'il n'y a pas le contrôleur derrière, on vient de vivre une histoire terrible à Crans-Montana. Voilà, donc...
C'est pas... Oui, et d'ailleurs...
Je dirais que le propriétaire, bon, ben lui, il a mis son plafond pare-feu. Bon, il a peut-être fait quelques économies, mais il n'a pas forcément conscience qu'il mettait des choses qui étaient inflammables. Ça, j'ai envie de dire, il y a quand même une petite responsabilité des contrôleurs. Je veux dire, bon, c'est leur métier, etc. Et grâce à Dieu, en France, moi, je le sais un petit peu, parce que j'ai créé quelques établissements publics de maisons de retraite, donc on était super contrôlés. Alors c'est vrai que c'est dur, ils viennent, ils font pas de cadeaux, si je puis dire, mais ils ont pas à faire de cadeaux, quoi, parce que c'est pour la sécurité incendie. Donc voilà, donc c'est toujours pareil, vous émettez des normes, mais il n'y a personne qui vient les contrôler, ou quand on contrôle mal.
C'est comme quand on dit, on prend la voiture, tiens, la route est limitée à 130 km/h, s'il y a des radars nulle part.
Évidemment.
Alors on va tous rouler à 200, voilà, c'est la vérité.
Moment, c'est comme ça, voilà.
Oui. Donc bon, c'est juste aussi pour ça, on voulait en parler. Tiens, alors, je vous laisse poursuivre, pardon.
Non. Donc, on en était dans ce TMAO. Le régime méditerranéen, c'est le traitement d'excellence parce qu'il y a du resveratrol. On va retrouver de l'ail dans le vinaigre balsamique et dans ce vin rouge. On trouve même une molécule qu'on a identifiée qui est le DMB, qui est le diméthylbutanol, qui va réduire ce TMAO. Donc, c'est juste fabuleux. Donc, ça veut dire que le régime méditerranéen réduit ce facteur de risque cardiovasculaire. Donc, c'est probablement un des éléments très très protecteurs de ce régime méditerranéen. On en dira un mot tout à l'heure de ce régime, de quoi il est composé. Mais voilà, donc, et c'est probablement ce TMAO. Donc ce TMAO, ça se dose. Donc évidemment, ce n'est pas remboursé parce qu'il n'y a pas de médicament derrière ça. Et c'est des oméga-3, c'est l'ail, c'est de la berbérine, c'est le vinaigre balsamique avec ce vin rouge dans lequel on trouve ce DMB etc., etc. Donc, et puis un autre facteur de risque encore plus récent qu'on a identifié, et tous les labos ne le dosent pas, c'est le phénylacétylglutamine. Et là aussi, c'est la même histoire. C'est un microbiote pathologique qui, quand il rencontre certains nutriments, on en trouve par exemple beaucoup dans le parmesan, ce qui ne veut pas dire que le parmesan il est toxique, mais encore une fois, tout est microbiote. Ça va donner une petite molécule qui va être un facteur de risque cardiovasculaire. Et ce facteur de risque se dose aussi, et le traitement, finalement, on en revient toujours sur le régime méditerranéen, c'est revenir sur des fibres, des antioxydants, le resveratrol qui est un grand polyphénol, etc., etc. Voilà. Donc tout ça se traite, se mesure, mais se traite et par des choses donc naturelles.
Très bien. Alors maintenant, on va parler de ce régime méditerranéen. On a bien compris les resveratrols, des fibres fermentescibles. Est-ce que je vous dis plein de trucs, mais comme, oui, il y a les polyphénols, vous en avez parlé, les fibres fermentescibles, le fromage de chèvre. J'ai l'impression que ça fait partie. Vous savez la fameuse feta. Je sais pas. Est-ce que c'est ça fait partie du régime méditerranéen?
Huile
d'olive. Dites-nous un peu. Voilà. Quel est, si on veut se faire du bien, on va dire pendant un mois, tester. Qu'est-ce qu'on mange?
Alors, peut-être juste un petit historique.
Parlez bien dans le micro.
Oui, pardon. Un petit historique pour dire quand même que ce régime crétois ou méditerranéen, c'est un des meilleurs traitements des maladies cardiovasculaires. Donc ça a été publié en 1994 par le docteur Delorgeril, qui travaillait pour l'INSERM, et on est venu le chercher pour parce qu'il est cardiologue et nutritionniste, donc, et on est venu le chercher pour qu'il trouve l'impact des habitudes alimentaires sur le cardiovasculaire. Et à cette époque, les statines étaient vraiment le maître à penser, donc, etc., etc. Alors bon, lui qui n'avait pas d'a priori, il a réfléchi, il s'est dit, où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'il y a des spots de longévité cardiovasculaire? Ben, il y a la Crète et puis il y a Okinawa. Il a choisi la Crète parce que c'est plus près de chez nous, c'est méditerranéen, voilà. Et puis il se trouve que sa femme est donc plutôt, je crois qu'elle est grecque ou crétoise, peu importe. Donc elle connaissait bien parce qu'elle est diététicienne. Donc ils sont partis sur ce régime méditerranéen. Alors, et puis l'étude était sponsorisée par l'INSERM sur 4 ans. Et puis elle l'a, au bout de la moitié du parcours, Fabrice, c'est toujours comme ça, on arrête au bout de 2 ans, donc, et on tire des petits papiers sur le groupe placebo et puis le groupe régime méditerranéen. Et ça, c'est une règle quand on fait des études, parce qu'on ne veut pas que le groupe placebo, qui ne bénéficie pas soit d'un médicament, soit d'un régime, soit trop pénalisé trop longtemps. Donc. Et là, quelle n'a pas été sa surprise? Dans le groupe régime méditerranéen, il observe des chiffres exceptionnels de réduction de morbi-mortalité. Et il s'adressait dans cette étude à des gens qui avaient déjà fait un infarctus. Et on était dans la prévention de la récidive. Donc on était chez des coronariens qui avaient déjà morflé. Et on sait que qui a morflé remorflera si vous ne changez pas les choses. Et là, quelle n'est pas sa surprise, il réduit de 70-75% tous les événements cardiovasculaires, les infarctus, les troubles du rythme, etc., etc. Et là, il dit, c'est pas possible, je me suis trompé, parce que 70%, Fabrice, c'est monstrueux. Dans le bon sens, bien évidemment. Et il recontrôle tout, mais non, c'est les mêmes chiffres, et il est tout content, il va voir les gens de l'INSERM, il leur dit, écoutez, c'est fabuleux. Et tous avaient le même taux de cholestérol, quoi. Le cholestérol était dans les deux groupes le même, et à l'époque, je vous rappelle, c'était les statines qui chassaient le cholestérol. Et dit, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire, le régime méditerranéen, ben, parce que c'est une réduction à ce niveau-là, c'est monstrueux, quoi, d'accord? D'accord, dans le bon sens, bien évidemment. Donc, et là, donc, lui dit, non, mais t'es fou, qu'est-ce que tu nous expliques? Que bien manger, ça te réduit le risque cardiovasculaire, il faut des statines, bon. Donc, l'INSERM s'est désengagé, d'accord, de l'étude, en disant, tu dis n'importe quoi, etc., bon. Alors, il fait le tour il est sur Lyon, mais finalement, il est re-sponsorisé par les hôpitaux civils de Lyon, les hospices civils de Lyon, et l'étude se termine avec les mêmes chiffres. Alors, cette étude a été attaquée de toutes parts, et personne ne l'a démontée, bon, voilà. Donc, et il a montré que le régime méditerranéen, non seulement réduisait de 70-75% tous les événements cardiovasculaires chez des gens qui étaient déjà à très haut risque, Mais en plus que les gens avaient une qualité de vie plus agréable, meilleure, etc. Et parallèlement, ça faisait baisser là aussi certains cancers, etc. etc. Donc, voilà. Donc, alors, votre question, ce régime méditerranéen, c'est quoi? Alors d'abord, c'est pas que la Crète.
Hein. On a l'impression
c'est
souvent
le bassin méditerranéen, c'est l'Italie, c'est le Liban, c'est la Turquie. C'est ce régime-là.
D'accord. Parce qu'on souvent, on a l'impression, on peut se dire, tiens, le régime méditerranéen, ça se limite... peu d'huile d'olive et du vin rouge, et c'est bon, quoi. Mais c'est pas que ça, c'est restrictif.
Non, c'est pas que ça. Alors, si on prend le régime crétois, il y avait très peu de bovins, il y avait des ovins et des caprins, donc vous parliez de la chèvre. Voilà. Donc, pas trop de viande, pas trop de bœuf, plutôt des animaux alors, qui sont, en termes volumétriques, comparables à l'homme. Donc, une chèvre et une brebis, bon, c'est pas une vache, voilà. Donc, on n'a pas les mêmes facteurs de croissance à l'intérieur, etc., etc. Donc, oui, bien sûr. Alors, il y avait du resvératrol par le vin rouge, il y avait beaucoup d'oméga-3, il y avait ces herbes riches en pourpier, très riches en oméga-3, donc les oméga-3 sont très 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 importants. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc il y avait des légumineuses, beaucoup de poissons, il y avait de la viande et plutôt donc quelques ruminants. On évite les viandes où il y a trop de rumination parce que là on va faire des acides gras trans, qui sont transformés par des bactéries, des animaux qui ruminent. Donc, par exemple, la viande de porc ne sont pas des ruminants. Hein, donc, le petit filet mignon de porc, bon, il n'y a pas d'acide gras trans dedans. Chez les ruminants, et là, vous les avez chez les bovins, les ovins et les caprins. D'accord ? Quand ça rumine, il y a des bactéries trans qui transforment. Voilà. Alors, elles sont pas toutes mauvaises, mais bon, potentiellement... Et celle-là, on va les retrouver dans un excès, Fabrice, de beurre, de fromage, etc. Mais un petit peu de fromage de chèvre, pas de problème. Fromage de brebis, pas de problème.
Les yaourts, les fameux yaourts grecs, c'est bon,
ça? Bien sûr, c'est bon, tout à fait. Mais là aussi, pas excessif. Donc une fois par jour, on va dire. Hein. C'est pas la peine de 3 repas.
Et alors, ce qui est intéressant,
donc, c'est... Oui.
C'est qu'il y a du pain complet ou au levain dans le régime méditerranéen, non?
Oui, oui, tout à fait, bien sûr, oui. Il y a ces farines un petit peu qui vous tenaient au corps, hein. Donc il y avait du sarrasin, puis on levait avec du levain, donc c'est mieux que avec des levures chimiques qui peuvent favoriser le développement de dysbiose fongique, mais bon, pas systématiquement. Donc en tout cas, c'était pas du pain blanc, bien évidemment, qui est sucre rapide, alors que le pain noir, sarrasin complet, là, c'est un index glycémique qui est normal.
Les amandes?
Les amandes, oui, c'est des oléagineux très intéressants, mais pas que, hein, les noix de Grenoble, noix de cajou, etc. Alors, je ne sais pas si en Crète, il y avait tous les oléagineux, mais oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait beaucoup de légumineuses, hein, donc des haricots rouges, etc. Donc, il y avait le minestrone, très connu, bien sûr. Oui. En Italie, c'est un plat de santé, bien évidemment. D'accord? Donc, beaucoup d'oméga-3, pas trop d'oméga-6. Ces oméga-6, donc on les retrouve dans ces viandes, chez ces animaux qu'on a nourris en batterie. Donc, tous ces animaux, évidemment, sur la crête, allaient brouter l'herbe, etc. etc. Donc, voilà un petit peu ce régime méditerranéen. Et je vous dis qu'il touche tout le bassin méditerranéen. D'accord? Donc, c'est vraiment... un régime, je dirais, salvateur.
Et alors, je vois que quand même, il n'est pas non plus très restrictif, c'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir, vous voyez, le pain complet, des œufs, du poisson, des légumineuses, des légumes cuits, légumes vapeur.
Des fruits aussi,
des fruits, pas trop de fruits, des yaourts.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Il y a quand même beaucoup de bonnes petites choses pour se faire plaisir, du poisson, peu de viande rouge, mais enfin, il y a un petit peu de tout quand même, c'est assez intéressant, y compris des céréales complètes au cœur de l'alimentation. Et ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est qu'on va parler plutôt des compléments, de la supplémentation, des actifs, des ingrédients naturels. Et on reparlera de cet actif qu'on a commencé à évoquer rapidement. Vous avez évoqué ça la semaine dernière,
la gomme de goire partiellement hydrolysée.
Alors, la gomme de goire partiellement hydrolysée, intérêt pour cet actif. On en parlera la semaine prochaine dans
bien sûr, tout
Fonctionnellement
très
Votre avec le docteur Pierre Maldinet aux manettes. Allez, retour de la musique tout de suite
amis.
Sur Nutri Radio.
Merci Fabrice.
Fonctionnellement Votre, Pierre Maldinet sur Nutri Radio.